Dios te mandó desde el cielo a que aliviaras tristezas, llegando al sur de este suelo de rica naturaleza. El subcomandante Marcos de nuestra raza es consuelo, es el verdugo de no. ¡Viva el comandante Marcos! ¡Muera el satánico imperio! ¡Él romperá los candados de pobres en cautiverio!
Marcos, cuando llegaste al sur de este suelo, llegó un consuelo a todos los hombres. Pero pocos saben que vienes del cielo, que del cautiverio liberas los pobres, por los campesinos, por los indios pobres, de penas enormes y justicia insultante. Subcomandante Marcos, te pido que aguantes, hoy se están uniendo ya todos los pobres.
Fue el día primero de enero del año 94, lanzaste el grito guerrero, cayendo muchos soldados. Vas liberando a Chiapas, vas despertando a la patria. Es el alma de Zapata, es el alma de la raza. El subcomandante Marcos de nuestra raza es consuelo, es el verdugo de Narcos, va a reventar al imperio. ¡Viva el comandante Marcos! ¡Muera el satánico imperio! ¡Él romperá los candados de pobres en cautiverio!
¡Viva Marcos, viva le sub! Qui est parmi les dirigeants de l'armée zapatiste de libération nationale du Chiapas, le Chiapas dont reviennent Anne et Pierrette, membres toutes les deux de la Commission internationale sur les droits humains en février dernier au Chiapas, pour témoigner entre autres auprès de l'Union européenne de ce qui se passe dans cette région du monde qui a à un moment donné eu toute la sympathie et le soutien de beaucoup de gens. C'est vrai, ces causes qui à un moment donné attirent l'attention de tout le monde et puis après on oublie. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression à un moment donné que tout le monde avait oublié, n'avait plus les yeux sur ce qui se passait au Chiapas, on ne lisait plus les commentaires, les histoires un peu étranges et fabuleuses du soub dans les journaux, par exemple dans le courrier. Et tout à coup, un grand coup de massue à la veille de Noël. Eh bien, on apprend qu'un massacre épouvantable a eu lieu dans une des communautés indigènes à Acteal, où plus de 45 personnes ont été assassinées par des groupes paramilitaires dont il a été largement prouvé qu'ils avaient été armés par le Parti révolutionnaire institutionnel, donc le PRI au pouvoir au Mexique depuis de nombreuses années. Alors vous êtes toutes les deux allées à Acteal dans le cadre de votre travail de commission, Anne et Pierrette. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez pu recueillir? Les gens sont encore là, ils sont écrasés, ils sont révoltés. Qu'est-ce que vous avez envie de témoigner de ce que vous avez vu, entendu et vécu à Acteal?
Eh bien, ce qui nous a frappé quand même, c'est que nous sommes arrivés sur une route. Là, il y avait d'ailleurs tout près des campements militaires en dessous du village d'Acteal et en dessus. On ne peut même plus parler de village parce que c'est aussi une sorte de campement où vivent les gens. Et nous sommes descendus un chemin, comme ça en file indienne, et nous sommes arrivés sur une petite esplanade. Et là, on s'est rendu compte que la communauté nous attendait toutes. Ils voulaient justement témoigner de ce qu'ils avaient vécu. À côté de l'église, justement, où 45 personnes ont été massacrées, près de cette église et dans l'église elle-même. Ce que nous avons pu constater, c'est que, en fait, ils se trouvaient dans un endroit où aucune fuite n'était possible. Cet endroit est attaché à la montagne. Tout en bas, il y a un ravin. Les gens qui étaient là ont été tués comme des lapins. Et ça, c'est déjà la première chose qui nous a frappés. C'est que pour eux, les seuls qui ont réussi peut-être à échapper, c'est qu'ils se sont cachés dans des fourrés. Mais il faut aussi se rappeler que le massacre, et ça, ils nous l'ont raconté après, a eu lieu, a commencé vers 8-9 heures le matin, jusqu'à 6 heures le soir, ils ont tué les gens. Et c'est dans ces personnes, c'est 21 femmes, dont 4 enceintes, 15 enfants et 9 hommes adultes. Et en plus, 16 blessés. Donc une véritable boucherie. Et les morts étaient encore... Il me semble qu'on entendait, on sentait encore leur présence. Ils nous ont montré où ils avaient été enterrés. Il y a d'ailleurs eu un acte scandaleux tout de suite après le massacre. Déjà, les autorités, la police qui se trouvait tout près n'est pas intervenue. L'armée, elle non plus. Le général qui commandait ces forces armées n'a rien fait alors qu'il était au courant. Ça a été prouvé de ce qui se passait. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que vraiment, c'est impunément, totalement impunément, que ce massacre a été perpétré. Les témoignages, d'ailleurs, le prouvent. Les paramilitaires sont entrés et ils ont tiré dans le dos des gens. Ils ont tiré dans le dos des gens. Le prêtre qui était là avait dit « n'oserons pas nous tuer si nous sommes réunis en prière tout près de l'église ». Mais ça n'a servi à rien, c'est lui le premier qui a été massacré. Et ça, c'est cette atmosphère qui était très pesante, où les gens avaient perdu, pour certains d'entre eux, plus de 8 personnes dans leur famille, que ce soit des oncles, des tantes. La description de ce qu'ils revivaient était naturellement terrible pour eux. Et... Alors, la question qui se posait toujours et que nous avons posée, c'était le pourquoi. Pourquoi vous, ce massacre-là? Pourquoi?
C'est la question qu'eux posaient aussi.
Et pourquoi ils la posaient aussi? Voilà, pourquoi nous?
Puisque c'était c'était le groupe des abeilles, c'est un groupe... pro-zapatistes, mais pas vraiment zapatistes, parce que la différence, ils ont beaucoup insisté là-dessus, leur fait, c'est qu'eux ne voulaient pas employer d'armes, et ils étaient, comme on le sait, en prière et en train de jeûner depuis 3 jours, pour qu'il n'y ait pas de problème entre Indiens. C'est le comble.
Et ce qu'on a appris après, pas tout de suite, parce qu'on a quand même eu des discussions, nous aussi, ça nous a posé des questions, c'est que depuis 90, ce groupe des abeilles, c'est un groupe religieux, catholique, très très croyant, ils appartenaient en 1990 au prix. Mais quand ils ont vu à quel point le prix violait les droits humains, ils s'en sont retirés et ils se sont rapprochés des bases zapatistes, mais sans être directement liés aux zapatistes. Ils étaient sympathisants des zapatistes. Et alors, peut-être une des conclusions qu'on peut tirer, c'est que là, le prix a voulu faire un exemple, d'un groupe religieux qui savait d'ailleurs sans défense et qu'ils ont massacré froidement pour que ça se comprenne ailleurs. C'est peut-être aussi la réponse à un des pourquoi, mais c'est pas tout.
Dans les faits, quand vous arrivez dans une communauté qui a été marquée par un tel événement, comment ça se passe? Enfin, là, j'aimerais bien un petit peu faire appel à vos sentiments personnels, plus tellement à la rapporteuse qui témoigne, mais un peu comment vous, personnellement, Anne et Pierrette, vous l'avez vécu. Ça ne doit pas être très facile de poser ce genre de questions.
Personnellement, moi, je dois dire déjà à la télévision que j'avais vue en décembre, les gens qui étaient dans tous ces cercueils, etc. D'ailleurs, il y a aussi un fait à dire, c'est que les cercueils, ils ont été... enfin, les morts ont d'abord été déplacés, alors que pour les Indiens, c'est si important de garder leurs morts. Hein. On a voulu les cacher. Ils ont été emmenés à tout cela au début, les 45. Puis ensuite, ils ont été ramenés par le gouvernement. Mmh. Et après, ils ont été ramenés. Mais pour eux, déjà, tout ce genre de déchirement, hein, rien qu'après le massacre, c'était des moments terribles à vivre. Alors nous, je trouve que moi, personnellement, que j'ai vécu ça, on avait tous, je crois, les larmes aux yeux. On pouvait ne pas manquer d'être fortement émotionnés. Et alors, on avait presque un peu une sorte de pudeur à photographier et à prendre des images. Mais après, un d'entre nous, qui était un observateur espagnol, s'est adressé à la communauté en disant « Ne croyez pas qu'on soit là en voyeur, hein, en prenant des images. C'est qu'on va dire, ailleurs, on va dire comment, ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé. On va faire en sorte que ce massacre ne soit pas oublié. » Parce qu'au Mexique, les autorités et puis toute la bonne société de San Cristobal riaient de ces Indiens massacrés. Pour eux, un Indien ne vaut rien, c'est une bête. Et là, c'est très important de montrer justement dans quel contexte tout cela s'est produit pour voir aussi que c'est un acte non seulement humain, mais un acte politique qui s'est produit.
Anne, tes sensations à toi, si je peux te demander? Vous arrivez avec une fonction très officielle, oui, dans un premier temps, et puis il y a le rapport,
oui, mais
humain,
bon,
de personne à personne.
Ta question m'amène à... Moi, je me suis beaucoup interrogée avant de partir dans cette commission parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire? C'était ma première question vis-à-vis de... notamment de gens traumatisés ou de gens qui souffrent beaucoup. On va arriver comme un troupeau dans leur lieu et qu'est-ce qui va se passer? J'étais très anxieuse. Je me sentais peu capable de prévoir des questions. Et il me semblait que beaucoup de choses devaient se passer aussi au-delà des mots, mais enfin, il fallait bien récolter les témoignages. Et ce qui s'est passé, ça, à peu près partout, c'est ce qui était assez magnifique, c'est que ce sont eux qui nous recevaient, qui ont pris en charge notre accueil et qui nous ont mis à l'aise. Et qui ont communiqué à toute cette commission une sorte de tranquillité devant ce qui était fait, qui ne pouvait pas être transformé. Ils nous ont traités... Il y avait une sorte de silence, une sorte de douceur entre les gens qui était assez exceptionnelle. Et c'est vrai que finalement, de pleurer ensemble, chacun à sa manière, ça s'est passé très naturellement. Je me rappelle à Acteal, il y a un moment donné où tout se passait bien et tout à coup, quelques femmes se sont mises à pleurer. Et aussitôt, tous les gosses se sont mis à pleurer. Et ça faisait une vingtaine d'enfants qui pleuraient et de femmes qui pleuraient. Il y a eu un moment difficile et puis ils se sont ressaisis. Et c'est là qu'ils nous ont amenés à faire un petit tour des lieux qui s'est fait en silence. On est allé se recueillir sur les tombes après avoir vu cette espèce de chapelle en bois criblée de trous de balles. Et tout ça s'est passé très naturellement, mais c'est vrai que c'est difficile de commenter ce qu'on a ressenti. On a été très émus.
Alors, c'est, oui, pour ça, je pense que si on est là, c'est pour qu'il ne passe pas un autre d'Acteal. Parce que c'est bien possible que là, c'était pour créer un exemple. Mais ils peuvent très bien créer un exemple maintenant dans une de ces communautés autonomes, un autre exemple. Et il faut qu'on se batte pour que cet exemple ne se reproduise plus. Alors, je crois que la pression internationale, quand même, a eu de l'effet parce qu'après... Après le massacre, au niveau mexicain, déjà, le président a dû destituer son premier ministre. Le gouverneur du Chiapas a été changé. Le chef de la police, quand même, de Chenalo, a été incarcéré. Donc, ils ont dû faire un exemple pour sauver la face au niveau international. Et ils ont été surpris aussi de la riposte. À l'intérieur du Mexique, il y a aussi une grande manifestation au mois de janvier. De plus de 100 000 personnes. Donc, il y avait une déstabilisation qui se créait au niveau du pouvoir qu'ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait de telles conséquences. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à dénoncer.
Mais lorsque nous parlions tout à l'heure des étrangers expulsés, bien à propos des Italiens, je lisais qu'ils étaient très inquiets d'avoir été expulsés parce qu'ils suspectaient dans une des communautés, il y allait peut-être avoir un nouveau massacre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu.
Oui, ils ont dit que dans cette communauté Taniperla, qu'il existait une situation à risque. Parce qu'il y a évidemment des lieux qui sont plus menacés que d'autres, soit à cause de leur disposition géographique, soit à cause peut-être de leur population. On peut supposer qu'il y ait des actes hâles possibles. Oui. Mais, oui, tu dis, Pierrette, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça recommence? C'est bien notre question à nous tous. Quand on parle des 45 morts d'Acteal, et en creusant un tout petit peu toute cette question et en lisant, dernièrement, quand sont venus des représentants à la Commission des droits de l'homme à l'ONU, ils nous ont distribué un certain nombre de rapports. Et dans un de ces rapports, j'ai lu que depuis 1995, il y a à peu près 40 assassinats au Chiapas chaque mois. Hein? Donc 45 morts à Acteal, tout le monde en a parlé, mais ce qu'on ignore, parce que ça se passe, c'est tellement caché, ou alors la désinformation est si grande, on ignore que c'est un processus constant. Et il y a des gens qui meurent de morts violentes, mais il y en a combien qui meurent tout simplement par manque de soins ou de faim en ce moment. Donc les Acteal, oui, mais c'est un processus qui dure. Et c'est vrai que on est rentré vraiment, vraiment le cœur serré, hein, avec un sentiment que la situation était trop dure et qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Mais c'est difficile de tenir bon sur un moment de soutien sur des années et des années. Hein. Et malheureusement, l'opinion bouge quand il y a un massacre.
C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Effectivement, ouais. Il faut qu'il y ait 46 morts d'un coup. Parce que c'est seulement ça qui choque les gens, quoi. Oui, on a l'impression, en entendant parler du Chiapas aujourd'hui, on peut faire le lien avec les Palestiniens, les Kurdes, ces gens qui se battent depuis des décennies pour obtenir leurs droits. Et effectivement, de temps à autre, ils reviennent à la une de l'actualité. Puis après, on les oublie de nouveau. C'est terrible. Alors, vous qui étiez parti pour, entre autres, essayer de persuader l'Union européenne, par exemple, sur un fait très concret, de ne pas signer cet accord économique, vous avez l'impression que l'Union européenne vous a entendu ou vous entend et qu'il y a des chances que ce soit un des moyens de pression possibles?
Je pense que ça peut en être un. D'ailleurs, cet accord va être signé très soudainement, hein, dans les jours qui viennent. Et heureusement qu'on est organisé quand même au niveau international. Je sais que nos camarades belges, puisque c'est à Bruxelles, vont tenir des manifestations. Ils l'ont déjà fait le 6 mai. Les Italiens, qui sont des parlementaires, vont intervenir avec une note qui sera publiée aussi dans les journaux italiens. Au niveau du Parlement espagnol, il y a aussi des parlementaires qui s'apprêtent à monter aux barricades. Donc, on peut souhaiter qu'il y ait une certaine influence. Bon, là où naturellement on va avoir des problèmes, c'est au niveau des gens bien installés, parce que chaque fois qu'il se passe justement des expulsions, les consuls ou les ambassadeurs réagissent très mollement. Donc il y a une sorte d'establishment qui existe entre le gouvernement mexicain et puis les autorités des autres pays, qui seraient toutes prêtes à signer immédiatement l'accord sans demander quoi que ce soit sur cette clause des droits humains. Donc c'est vrai que c'est la société civile, c'est nous, c'est des parlementaires qui sont plus engagés et qui pourront faire pression. Il faut souhaiter que cet accord ne soit pas signé. Maintenant, s'il l'est, c'est clair qu'on va se trouver en position très difficile. On va se trouver au niveau international pour faire pression sur le gouvernement mexicain. On va se trouver en position délicate.
Oui, nous, en tant que Suisse, on est un petit peu en dehors des questions de l'Union européenne. Mais la commission d'observation a envoyé son rapport à tous ces parlementaires, et dans les pays où c'est possible, il y a une pression assez forte qui est faite. En Suisse, on a envoyé, on a fait une conférence de presse à Berne, et on a notamment essayé d'établir des contacts avec la commission des affaires étrangères, donc Flavio Cotti et cette partie-là du Parlement, qui nous ont assuré de leur sympathie, mais qui jusqu'à présent ne nous ont pas convoqués encore. Mais on essaye de faire un petit travail à ce niveau-là, mais en tant que Suisse, on est un tout petit peu en dehors, malheureusement.
Ouais. Est-ce qu'il y a des grands enjeux économiques? C'est de nouveau ce qui va régler la question avec beaucoup de force et de poids.
Entre le Mexique et l'Union européenne?
Par exemple, oui.
Probable.
Oui, mais il y a des grands enjeux, je pense. Oui, oui. La France, d'ailleurs, est très impliquée, avec des échanges qui sont... Naturellement, le Mexique a des richesses. Il peut y avoir des importations aussi des différents pays européens. C'est clair que les chantres du néolibéralisme sont prêts à signer les accords immédiatement. C'est clair que derrière ça, il y a des gros enjeux financiers et économiques.
Oui, donc dans les fameuses rencontres, les deux rencontres intergalactiques contre le néolibéralisme, ce titre, paraissant parfois un peu obscur pour certains et certaines, prend tout son aspect concret dans des situations comme celle-ci. Et d'ailleurs, Anne, tu avais très envie de retourner, toi, à Oventic, où tu, une de ces Aguascalientes, lors de la première rencontre intergalactique. Mais je crois que Oventic, aujourd'hui, n'est plus tout à fait comme tu l'avais trouvé la première fois.
Bien, c'est un des endroits où nous sommes allés. Et bon, il est vrai qu'avec pas mal de retard, nous sommes arrivés là la nuit, avec beaucoup de retard. Et les présidents du conseil autonome de San Andrés nous attendaient à l'intérieur. Il n'y avait plus aucun éclairage. Tout cet immense endroit était désert.
Et même détérioré.
Passablement détérioré, brûlé, rouillé par endroits. Il y avait encore à certains endroits ces magnifiques fresques qui nous avaient accueillis en 96. Mais on avait l'impression d'un endroit désaffecté, qui n'était d'ailleurs même plus gardé. Ce qui fait qu'après l'entrevue avec les responsables qui nous ont bien reçus, nous avons dû dormir dans un des baraquements absolument sans la moindre protection. Ils sont excusés en disant qu'il fallait qu'ils rentrent rapidement dans leur famille. Et la nuit était déjà tombée. Donc on s'est senti vraiment, par rapport à ce qu'on avait vécu sur les lieux mêmes, dans une situation de décalage et de régression assez impressionnante.
D'autant plus que j'ai lu après, mais seulement après, quand je suis rentrée, qu'il y avait une commission des droits humains, aussi composée de certaines personnes au niveau international, mais aussi de Mexicains, qui s'étaient rendus à Oventic en décembre 97. Et là, est-ce qu'ils étaient dans une situation moins favorable? Toujours est-il que pendant la nuit, ils ont été dérangés, ils ont dû fuir, on leur a fait des menaces. Et, donc là, je crois que nous avons encore été privilégiés, mais c'est pour montrer que véritablement maintenant, il n'y a plus d'abri. Mmh.
Mmh. Enfin, on a été réveillés le matin par des fusées. Ce qui s'est avéré être des fusées, il y a eu d'énormes bruits et tout le monde s'est dressé sur sa couchette assez angoissé. Et ce qu'il y avait, il y avait simplement une fête dans une chapelle, une fête religieuse dans le brouillard. Et c'était ces grandes fusées, mais là, tout le monde a eu peur. C'est parce que, oui,
bah oui,
très très rapidement, dans une situation comme celle-là, on imagine le pire.
Alors voilà, je remercie Anne Plattner et Pierrette Iselin pour tous ces témoignages et pour nous avoir donné un peu plus d'informations contre les actions du gouvernement mexicain contre le peuple tchapanèque. Rappelons que les zapatistes sont à l'origine de la création d'un réseau pour qui la lutte contre le néolibéralisme n'est pas impossible. Le néolibéralisme n'est pas une fatalité inéluctable et il s'agit de se battre contre, et les événements
événements de ces derniers jours à Genève l'ont prouvé et dans le monde. Et l'Action mondiale des peuples était une proposition faite par les apatistes lors de la deuxième rencontre intergalactique pour la paix contre le néolibéralisme en Espagne. Et je crois qu'on peut dire qu'elle a prouvé l'importance de son action et de son existence. Alors pour terminer cette émission, eh bien, Anne, je crois que tu nous proposes une musique de fiesta bien mexicaine.
Je crois que ce sont des marimbas et c'est une fête de Los Altos au Chiapas.
Il se passe quoi dans ces fêtes?
Je ne les ai pas vues cette fois-là, surtout pas cette fois-là. Mais ce que je sais, c'est que les marimbas sont les instruments préférés des communautés et que même les réfugiés en fuite essayent d'entraîner leurs marimbas avec eux, parmi leurs bagages, les quelque chose qu'ils emportent, parce qu'ils vivent vraiment avec la musique. Oui.
Alors j'aimerais juste avant de terminer ces notes de musique mexicaine, eh bien vous donner quelques indications très concrètes si vous voulez manifester votre soutien à la lutte du peuple zapatiste. Il y a à Genève le comité Viva Zapata et à Lausanne le comité de solidarité avec le Chiapas. Et ce comité propose que nous répondions à un appel d'argent fait par le campement de Polo dont nous parlait Pierrette Iselin durant cette émission. Ce campement où plus de 10 000 personnes sont là à vivre parce qu'elles sont déplacées de guerre, où elles ont beaucoup de peine à survivre puisqu'il leur manque tout. Bon, la plupart de leurs objets personnels ils ont dû les abandonner ou leur ont été volés par l'armée mexicaine. Ils n'arrivent pas à vendre leur maïs, leurs céréales pour tenter de survivre. Donc un appel très très immédiat que lance le comité de solidarité Chiapas de Lausanne, auquel vous pouvez répondre par des dons en le versant, prenez vite vos crayons, sur le compte de chèque postal donc du comité de solidarité du Chiapas Lausanne, CCP 70-204-125, je répète, CCP 70-204-125. Vous pouvez aussi leur écrire au case postale 144-1000 Lausanne 9. Et bien voilà, le remue-ménage aujourd'hui c'est terminé. Nous vous rappelons que vous pouvez nous retrouver en rediffusion donc à 23h le mercredi soir et à 11h le jeudi matin. Et remue-ménage en direct dans Ondes Femmes Radio Zone 93.8, c'est tous les mercredis de 17h à 18h. Et nous terminons sur une chanson d'Elisabeth Comment.
Si un jazz n'y connaît rien, il faut chercher les fleurs. La vraie chanteuse de jazz aime obligatoirement les fleurs. À force de traîner dans des boîtes sans soleil et sans eau, la vraie chanteuse de jazz aime obligatoirement les fleurs.
La vraie chanteuse de jazz
peut adopter
la vraie chanteuse de jazz.
Je vous parle de la vraie chanteuse, la vraie chanteuse de jazz.
La vraie chanteuse de jazz, la vraie chanteuse de jazz.
La vraie chanteuse de jazz,
yeah. La vraie chanteuse de jazz.
De jazz, on trouve les amateurs de jazz. Mais il y a plus d'amateurs de jazz que de places dans les boîtes. On étouffe, ça pique les yeux, on s'entend plus swinguer. Pour aller dans les boîtes de jazz, faut vraiment aimer le jazz. La
vraie chanteuse de jazz ne critique pas les boîtes, encore moins les critiques de jazz, ce serait trop kamikaze. Elle chante à ses poumons noyés dans un halo, pendant que le critique sadique fume des cigarillos. J'aime la chaleur humaine. La pauvre chanteuse à la mode n'a pas l'avantage qu'à la chanteuse de jazz de prendre du corps avec l'âge. Comme une bonne bouteille de vin, la diva devient divine, pendant que la chanteuse has-been continue son régime.
La chanteuse à la mode, la chanteuse à la mode.
Quelquefois ramage et plumage font bon ménage. Alors notre chanteuse de jazz fait jaser le jazz. Elle déballe ses tripes sur scène, sans gêne c'est connu. Mais une chanteuse